Donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étude que je vais appeler Cantique de Rédemption. Évidemment, j'ai emprunté le titre d'un chanteur de reggae, mais ça convient. Ça convient. Parce que, en fait, c'est pour préparer la période de Pâques. Pas simplement parce que, typiquement, à Paris, et je crois que nous avons tort, mais souvent dans la période de Pâques, les églises protestantes se vident, alors que les églises catholiques se remplissent. Et je dis pourquoi? Surtout sachant que c'est le moment sur le calendrier où tout le monde parle de Pâques, la résurrection. En fait, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, nous réalisons que ce jour de Pâques est le jour où nous célébrons le moment le plus important de l'existence humaine. Le moment où Jésus est mort et qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Le jour qui a changé toute l'histoire. Pas simplement les nôtres. Et donc voilà pourquoi j'aimerais prendre de l'avant et pour nous préparer cette période si importante dans la vie. Alors, les chants de rédemption. En fait, c'est toute une tranche de psaumes, les psaumes 113 jusqu'à 118. Les théologiens les appellent le Hallel égyptien. Alors, attention, ce n'est pas Halal, c'est Hallel. C'est-à-dire, en fait, ça vient d'un mot hébreu. Et ce mot, Hallel, nous donne le mot que nous reconnaissons tous, Alléluia. Et en fait, le mot Alléluia, ça veut dire louer Yahvé. Donc, cette tranche de psaumes, en fait, c'est les psaumes qui sont chantés lors du Seder de Pâques. En fait, les deux premiers sont chantés avant le repas et les autres sont gardés pour la fin. Et c'est très important pour les chrétiens aussi parce que certainement vous vous dites, mais ok, ça c'est bien pour le peuple juif, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bah, en fait, sachez-le, Jésus, il a chanté ces psaumes et c'est justement marqué dans les évangiles. Mais si on considère que ce sont probablement les dernières psaumes qu'il a chantées avant la crucifixion, ça rend les choses encore plus fortes. En fait, tous ces psaumes tournent autour de l'Exode. Et donc, l'Exode est important parce que, bibliquement parlant, et surtout en Christ, nous pouvons parler de trois Exodes. Donc, première Exode, c'est quoi? C'est la sortie de l'Égypte, n'est-ce pas? Deuxième Exode, c'est la résurrection du Christ qui maintenant nous fait sortir du royaume des ténèbres, donc un Exode vers le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Troisième Exode, je pense que vous le savez, c'est... Oui, voilà. Donc, c'est le retour de Christ. Donc, l'exode final. Donc, c'est intéressant de voir ces choses à partir de là. Lire et étudier ces psaumes ont un sens très profond pour les chrétiens. Et donc, j'espère, voilà mon souhait, c'est que ces psaumes vont nous donner un plus grand amour pour le Christ, à force de voir dans toute sa splendeur et au travers de cela, que du coup on soit, et que je sois surtout, émerveillé par sa personne. Et avec un plus grand amour pour Christ, un plus grand détachement au monde aussi, que sa beauté, sa puissance nous emporte. Pour que nous redécouvrions cette ce bonheur de sa présence, le bonheur juste en lui, pour tout ce qu'il est. Et c'est ça, justement, qui transforme une vie. Et c'est exactement ce que nous voulons. Donc, pour aujourd'hui, nous commençons avec le commencement. Donc, le psaume 113. Et on va voir ça en trois parties. D'abord, nous verrons la rédemption qui descend des cieux. Deuxièmement, nous verrons comment, par cette rédemption, Dieu, il relève les malheureux pour parler enfin de l'Exode. On y va? Oui? Ok, c'est bon. Donc, psaume 113. La rédemption qui descend des cieux. Et comment est-ce que ça commence? Avec verset 1. Louez l'Éternel. Donc, alléluia. Donc, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Et où est-ce que ça commence? Avec les serviteurs. Les serviteurs. Ce psaume, chanté avant le repas, commence avec un appel aux serviteurs de Dieu. Certainement, l'auteur de ce psaume envisageait ceux qui servaient dans le temple, donc les serviteurs de Dieu. À leur époque, ça serait plutôt ça. C'est Lévite, donc, qui s'occupe de tout ce qui se passe dans le temple. Trois fois, l'impératif est lancé. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que ses serviteurs, ces prêtres, ces lévites, soient dans cette mentalité, qu'ils le louent. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas un service à contre-cœur. Il veut de la joie. Il ne veut pas non plus un service à demi-effort, mais avec zèle. C'est lui qui nous a fait. N'est-ce pas? C'est lui qui nous a donné vie. C'est lui qui nous a sauvés. Et qu'est-ce qu'il veut si ce n'est de la joie dans sa maison? Et c'est vrai que parfois on arrive, moi je suis le premier, j'ai la circulation en tête, j'ai peut-être pas une très bonne sommeil, plein de choses peuvent justement me prendre et me surprendre, et j'arrive et honnêtement j'ai pas encore de cette joie. N'oublions pas que la joie que nous cherchons, ce n'est pas juste une bonheur vis-à-vis des circonstances, comme nous venons de chanter tout à l'heure dans la chanson « Béni l'Éternel ». Ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit saisisse nos cœurs pour qu'il dégage en nous ce fruit qui est une véritable joie, parce que c'est ça qui est le plus important. Par l'œuvre du Saint-Esprit, il est possible justement d'être dans la joie malgré les circonstances. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on a des rires qui ne cessent pas. Peut-être même le sourire est difficile dans certains moments. Mais il y a aussi une calme joie qu'on peut aussi appeler la paix, qui marque l'individu qui est rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut pour nous. Et donc, s'il veut que ses serviteurs louent l'Éternel, nous pouvons savoir que c'est bénéfique. Et puis, deuxièmement, si on ne l'a pas, ce n'est pas la peine de faire semblant. C'est lui qui donne les forces, toujours, pour son œuvre. C'est lui qui donne la force, que ce soit même pour l'évangélisation ou quelque chose qu'il présente devant nous, c'est lui qui donne la force. Donc, c'est au serviteur de le louer. Mais deuxièmement, que son nom soit loué éternellement, universellement. versets 2 et 3. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à toujours, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit loué. Le nom. Ah oui, nous savons que ce nom, le grand je suis, le nom de Yahvé, chaque fois que nous lisons en français éternel, c'est ça qui est évoqué. Alors, ce nom qui est un nom d'alliance entre le peuple Israël et son Dieu, ce nom qui est si profond, il est qui il est, qu'il était, qu'il le sera, tout ce dont nous avons besoin, à tout moment. Ce n'est pas juste le nom en tant que tel, Yahvé, ou le nom éternel qui soit loué, mais tout ce qu'il représente. Le fait que, dès le matin, dès le soir, pour toujours, il est là. Que sa providence ne faillit jamais, parce que il est fidèle à sa parole, parce que son amour fidèle n'a pas de fin, parce que sa grâce nous couvre à chaque instant. Tout ce qu'il fait, le fait qu'il est souverain, il laisse les choses aller dans un certain sens, mais il est toujours là pour tourner les cœurs des rois. Il est celui qui nous accueille. Son nom est comme un tout puissant où nous pouvons nous courir quand nous avons du mal, quand nous sommes vraiment dans la panique. Nous pouvons tourner vers lui. Tout cela, c'est son nom. C'est la même idée que Jésus nous a enseigné, cette même idée que Jésus nous a enseigné lorsque il nous a enseigné comment prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, il y a tellement à dire, juste sur ces petits mots, que ton nom soit sanctifié, Père. Combien nous avons, justement, de richesses, de bénédictions, de relations intimes avec ce nom, Père. C'est vaste. Il est Père. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est Dieu des armées, ou même, on peut le traduire, des armées d'anges. Il est omniscient. Il peut tout. Il est souverain. Que ton nom, que le nom de l'Éternel, Yahvé, soit béni à tout temps. Et puis, du lever du soleil jusqu'à son couchant, attention, ce n'est pas, comme disent certains, juste un texte où on parle de la terre, à l'époque biblique, comme une terre plate. Non, il y a d'autres, passages, notamment en Job, où on parle de la sphère de la terre. Il y a aussi en Ésaïe. Donc, ce n'est pas un texte scientifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la louange soit universelle, mondiale. Parce qu'à tout moment, même maintenant, le soleil se lève quelque part. Que le nom de l'Éternel soit béni là. Il y a un autre endroit, quelque part dans le monde, où le soleil commence à coucher. Que le nom de l'Éternel soit béni là. Et pour toujours ainsi. C'est ça cette idée. Qu'il est si digne d'être loué en tout temps. Que ça commence avec les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et que ça continue jusqu'à ce que la terre entière soit remplie de la connaissance de l'Éternel. L'Éternel, son nom. Cette louange est destinée à couvrir la terre. Pour toujours. Alors, nous en tant qu'Église, Vous le savez, on s'est fixé trois objectifs. Ces trois objectifs, en fait, ça correspond à chaque ministère que nous faisons, nous essayons quand même. D'abord, chaque chose que nous faisons, que ce soit toujours en collaboration, en équipe, que ce soit une équipe de louange, que ce soit donc une équipe de ceux qui font l'école du dimanche, ou tout ce que nous faisons, nous voulons faire justement en collaboration. Aussi, en formation. C'est-à-dire d'abord que Christ soit formé en nous. Et puis, on veut toujours former et épauler les uns les autres. Mais troisièmement, c'est l'évangélisation. Parce que nous savons que y a trop de chaises vides. Et qu'il y a tout un quartier, une ville qui a besoin de connaître Jésus, n'est-ce pas? Ok. Que le nom de l'Éternel soit loué éternellement. Mais je trouve que John Piper a dit un truc fascinant. Il dit ceci, John Piper, il dit que les évangélisations ne sont pas l'ultime but de l'Église. En fait, l'ultime but de l'Église, c'est la louange. Les missions existent parce que la louange n'existe pas. C'est pour cela que Jésus nous envoie. Parce que dans ce monde, dans ce quartier, ne serait-ce que les meubles en face, la louange n'existe pas. Mais elle existe ici, n'est-ce pas? Alors, il nous appelle à prendre cette louange qui est aussi une forme d'évangélisation. Lorsqu'on parle bien de Dieu, surtout dans cette ville, dans cette culture, ça dit énormément. Et c'est un bon commencement. Tout commence et finit dans la louange, vous savez. Notamment, tournez vite avec moi en Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Une belle image qu'il faut toujours garder à cœur. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça, c'est notre destinée. C'est là où on va. Alors, louons le Seigneur même maintenant, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, il est au-dessus de tout. Regardez verset, on revient à ce psaume, regardez verset 4 à 6. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Que c'est important de garder ceci à cœur. Dans une époque où il y a énormément de tensions sur la scène géopolitique, n'est-ce pas? Dieu est au-dessus des nations. C'est lui qui dirige les cœurs des rois, selon Proverbe 21:1. Il peut diriger tous ces gens. Sa gloire est au-dessus des cieux. Et donc, il n'y a aucune nation, aucun président, aucune guerre, aucune catastrophe naturelle, aucune technologie, aucune forme de intelligence artificielle, je sais, quelque menace qu'il soit, c'est rien pour lui. Il est au-dessus de tout cela. En fait, il suffit pour nous juste de lever la tête et de le regarder parce qu'il est là. À l'époque où on écrit on a écrit ce psaume, on parlait de Baal. Vous connaissez Baal, donc ce idole qui est assez méchant. On parlait de Baal comme celui qui chevauche les nuées. Donc, on imagine qu'il est dans son chariot, il chevauche sur les nuées, n'est-ce pas? Le psaumiste, il s'en moque. Et c'est voulu. Dieu est tellement au-dessus de tout, il regarde même les cieux et les nuées. Qu'importe Baal, qu'importe les autres, l'Éternel est le plus haut. Il est incomparable. Qui est donc ces dieux égyptiens qui veulent garder le peuple d'Israël en esclavage? Ils sont rien. C'est lui qui les libère. Et ce point est très fort parce que Dieu est celui qui est élevé à ce point, mais quand il regarde, ce n'est pas juste pour observer. Il regarde pour agir. Et son action, c'est la rédemption. La rédemption, donc, qui descend. On commence avec la louange parce que sa rédemption descend vers nous. Et c'est sa rédemption, deuxièmement, qui relève même les plus malheureux de la terre. Notamment ceux qui sont pauvres, ceux qui sont faibles. Versets 7 et 8. De la poussière, il redresse le faible. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables de son peuple. Du plus haut des cieux, Dieu rejoint ceux qui sont au plus bas dans la société. Personne n'échappe son attention. Le faible, justement, il est souvent piétiné par les grandes dans ce monde. Mais Dieu, il les redresse pour les faire asseoir même à l'égalité avec les princes, les grands. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Rappelons-nous de cette belle histoire dans les évangiles où il y a cette femme, pendant 12 ans, elle était affligée par une fuite de sang. Elle avait cette maladie. Tout ce qu'elle voulait était juste de toucher le frein de son vêtement. Elle arrive, elle pousse, elle touche son vêtement et elle sent qu'elle est guérie. Jésus ne l'a pas laissé juste comme ça, en secret. Parce que cette femme, pendant 12 ans, elle a tout perdu. Elle était, en quelque sorte, parfaitement marginalisée. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se tourne et il la relève. Et lui redonne sa dignité. Ça, c'est notre Dieu. Le pauvre, il est souvent dans des situations qui ressemblent, très bien dites, hein, comme du fumier, n'est-ce pas? Où il fonce, il ne peut pas se relever. Mais, qu'est-ce que Jésus dit aux pauvres? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Leur héritage dépasse toute attente. Tous les riches de ce monde ne peuvent pas avoir accès, si ce n'est par Jésus. Mais le pauvre, pauvre de l'esprit, Jésus le voit et lui donne un héritage qui dépasse l'imagination. Et il pourvoit. Dieu pourvoit à nos besoins. Parfois, sa provision n'arrive pas autant que nous estimons que ça doit être. Là, j'avoue. Mais c'est toujours à l'heure. Dieu donne grâce aux humbles. Il s'oppose aux orgueilleux. Parce que lui, le plus haut, s'est humilié pour nous racheter de notre misère. Alors, lui, qu'il était si riche, il est devenu pauvre pour que nous devenions justice pour Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et puis, il donne de l'espoir aux femmes stériles. Verset 9. Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile, comme une mère joyeuse au milieu de ses fils. Louez l'Éternel, ou plus exactement, Alléluia. Là, l'auteur cite sans doute 1 Samuel 5 et 8. En fait, vous connaissez cette histoire, sans doute, c'est la mère du prophète Samuel qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis, elle s'est présentée devant le tabernacle. Et puis, bon, histoire, je résume. Elle reçoit la bénédiction du prêtre, elle rentre chez elle, elle a un fils, et elle revient pour présenter justement son fils, donc qui a été consacré à Dieu. Et elle dit ceci, verset 5, donc 1 Samuel 2, 5, « Ceux qui étaient rassasiés cherchent un gagne-pain, ceux qui étaient affamés ont du repris. Même la femme stérile enfante cette fois. » Mais celle qui avait beaucoup de fils est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. De la poussière, il redresse l'indigent du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec des notables et leur donne un héritage du trône de gloire car l'Éternel... Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et sur elle, il a posé le monde. Anne avait cette vision prophétique reprise par le psaume et aussi dans une autre chanson que vous connaissez très bien. Notamment la chanson de Marie en Luc. À cette époque, une femme stérile était considérée comme maudite. Là, le psaumiste, il dit autre chose. Non. En fait, notre Dieu est tellement généreux qu'il renverse ces choses-là. Il change notre mal en bien. Et dans ce verset, nous voyons le renversement de cela pour que celle qui était écartée devienne celle qui est joyeuse en son foyer. C'est une belle image de la rédemption. Aussi élevée que cette rédemption le soit, et descend au plus bas imaginable pour reprendre ce que la société n'en veut plus entendre parler. Parce que personne n'est trop méchant, personne n'est trop mal ou trop... ceci ou cela pour que Dieu ne le touche pas. Car Dieu peut tout. Ainsi, nous avons l'espoir, quoi qu'il arrive. Et c'est ce psaume qui nous aide justement à toujours garder ça à cœur. Alors, parlons maintenant de l'Exode. Où est le lien avec l'Exode ici? Ben, nous commençons avec cette femme qui était stérile. Parce que, peut-être vous savez, que Israël était aussi appelé le servant de l'Éternel, mais aussi la femme stérile. Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe 54, verset 1. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cri de triomphe et jubilé, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, Israël, qui était justement délaissé, stérile à cause de cet esclavage, lorsqu'elle est ressortie de l'Égypte, est-ce que Dieu l'a gardée dans une telle situation? Non. Exode, chapitre 19, verset 6, nous lisons: quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Lorsqu'il était esclave, Israël n'avait pas d'espoir. L'Égypte, lui, a enlevé sa dignité, ses fils, son temps, sa force, sa liberté. Mais voilà ce que l'Égypte n'a jamais fait. N'a jamais enlevé son Dieu. Parce que Dieu était toujours avec eux. Dieu a envoyé Moïse, qui a conduit ce peuple par sa main puissante vers un pays où il pouvait être libre. Et il lui donne justement tout ce qui est nécessaire pour transformer ce peuple qui ne sera plus esclave, mais un peuple qui devient une nation sainte. Des sacrificateurs pour lui. Des serviteurs. Ah, louez l'Éternel, serviteur de Dieu. Louez l'Éternel. Ainsi, ce peuple de Dieu a raison de le louer pour toujours, car c'est lui le Rédempteur. Donc, pour finir, pour terminer, la rédemption qui descend d'en haut relève les malheureux les plus bas. Pour l'Exode, il y a une raison. C'est pour l'Exode. Et encore plus beau, c'est que, peut-être vous avez déjà senti ça, mais la mission de Jésus suit exactement la même structure de ce psaume. Dans cette plus grande Exode, qui fait chanter éternellement, hein, l'accomplissement de la Pâque. Comme la louange part d'en haut, qui descend justement et relève ceux qui sont affligés. Jésus, il est parti d'en haut, n'est-ce pas? Qui est descendu jusqu'à terre, qui a pris notre humanité sur lui, qui est mort à notre place, qui est allé là où personne ne pouvait aller, mais au plus profond, enseveli, ressuscité, troisième jour, et remonté. Il fut crucifié pour nos péchés, ressuscité, victorieux. Et ensuite, il nous appelle à suivre dans sa victoire. Sa victoire. Louons le Seigneur. Alléluia, louez l'Éternel, notre Rédempteur, qui a fait autant pour nous. Amen.